Vous êtes à l'Open Mic, 10h31. Quel plaisir de vous accompagner encore pour la prochaine heure. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée de la douce Pascale CV jusqu'à demain.
Ouais, ben là, je me fais pas mal juger là, pour mes choix d'achat Marketplace. Je pense que j'ai l'air plus psychopathe que douce à ce moment.
Ah, mais là, c'est une possibilité.
En même temps, si on me le réclame, je me dis que
ah, ça... mais les gens sont curieux.
C'est ça.
Les gens osent pas, mais ils sont curieux
ça
quand
divertit.
Même. Là. Je vous disais avant la pause qu'on allait jaser avec Catherine Voyer-Léger. Elle est l'auteure du livre « Adoption, les 12 travaux de la Banque Mix ». C'est de 200 à 250 enfants qui sont adoptés au Québec tous les ans. Et c'est un processus qui est excessivement compliqué.
Probablement trop dans certains dossiers. Là, il y a des gens proches de moi, entre autres un couple homosexuel qui a adopté un enfant. Puis ça a été tellement ardu qu'il en souhaite une deuxième adoption. Il souhaite passer à une deuxième adoption. Puis ça leur remémore pas nécessairement des
bons
beaux souvenirs.
Je suis comme mitigée parce qu'il y a une partie de moi qui me dit faut pas que ce soit facile non plus.
Oui.
Tu veux pas que n'importe qui puisse adopter. Mais d'un autre côté, je me dis faut pas que ça devienne décourageant pour des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent devenir famille d'accueil. Pas d'accueil, mais adopter plutôt. Puis finalement, le processus est tellement compliqué que tu finis par faire « Bon, mais regarde, laisse faire. On va procéder autrement. »
Est-ce que finalement, on se tire pas dans le pied avec certaines dispositions ou certaines demandes?
C'est un peu une des questions
protéger,
que totalement. C'est un peu une des questions que j'ai ce matin. Puis si vous en avez, n'hésitez pas au 88-971-1021. Je sais qu'on a des auditeurs qui sont dans ce processus-là aussi. Catherine, bon matin.
Bonjour.
Tu as navigué pendant 8 ans dans ce système-là pour adopter ta fille. Un processus qui s'est terminé en janvier 2024, donc relativement récemment, on va se le dire. Et tu as fini par en écrire un livre. L'adoption par le programme de la Banque Mix, c'est la forme d'adoption la plus répandue. Ça remonte aux années 80. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est peut-être pour les gens qui sont jamais passés par là ou qui ont jamais pensé à l'adoption?
Donc, le processus de la Banque Mix, c'est un processus qui est géré par la DPJ. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'on s'inscrit d'abord comme famille d'accueil, mais en disant d'emblée qu'on a envie d'offrir un projet de vie stable à un enfant. Donc, c'était pour casser un problème qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on plaçait des enfants dans des familles d'accueil, puis quand on se rendait compte, au bout d'un an, au bout de 2 ans, que... ils ne retourneraient pas dans leur famille d'origine, bien là, souvent, on devait les redéplacer parce que la famille d'accueil chez qui ils étaient, eux, ils n'avaient pas l'intention là, de garder un enfant à long terme, de l'adopter, ce n'était pas ça leur projet. Donc, l'idée de la Banque Mix, c'est de pouvoir placer des enfants. On ne peut pas être sûr que les enfants vont rester avec nous, mais l'idée, c'est que si jamais le retour n'est pas possible en famille d'origine, bien, à ce moment-là, ils sont déjà dans un lieu qui va être leur lieu de vie à long terme.
Tu as fait le processus au complet. Moi, je n'ai jamais été près de ça. J'ai connu des enfants qui se sont ramassés dans les mains de la DPJ, mais je n'ai jamais connu des gens qui ont adopté. C'est toujours quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Peux-tu me décrire exactement le moment où tu veux adopter, là? Qu'est-ce que tu fais là?
Tu appelles au centre jeunesse de ta région. Ça, c'est ton étape numéro un. Puis d'ailleurs, je le dis souvent, mais je dis aux gens, faites-le plus tôt que tard. Moi, je l'ai fait un peu tard, en fait, parce que c'est un long processus. Puis quand je me suis retrouvée à la rencontre d'informations, moi, ma décision était prise. Là. Je savais que c'était vers ça que j'allais. Tandis que c'est un bon endroit quand on est encore hésitant pour aller tester nos hésitations, admettons.
Est-ce que ça ressemble un peu finalement au processus de garderie? Faudrait que tu inscrives ton enfant avant même de savoir que tu es en train de le concevoir.
C'est lourd, hein?
C'est un peu ça. C'est un peu ça, en effet. C'est que si vous êtes plus dans un mode, je sais pas, vous n'êtes pas sûr, vous testez la procréation médicalement assistée, par exemple, mais ça ne marche pas super bien, mais vous n'avez pas fini, mais allez quand même tout de suite à la rencontre d'informations, parce que ça va vous le dire si c'est une voie pour vous ou si vraiment ça fait comme, OK, non, trop lourd. Parce que ce qu'il faut savoir, puis moi, c'est ça que je voulais, c'est que à un moment donné, si tu es trop accroché à ton idée, peut-être que tu n'entends pas. Ils te le disent à la rencontre d'information, là, ça ne sera pas facile. C'est administrativement pas facile, ça peut être juridiquement très long et humainement, c'est un processus qui n'est pas facile. Il y a des gens qui tombent sur ce que Joanne Lemieux, la grande spécialiste en adoption, appelle des enfants été, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression d'élever un enfant qui n'a à peu près aucun stigmate de son processus d'adoption. Mais soyons clairs, pour la majorité d'entre nous, notre vie quotidienne n'est pas facile. On a des enfants qui ont des lourds bagages, même s'ils se rappellent de rien. Et puis, il faut vivre avec ça, il faut apprendre à vivre avec ça. Puis moi, je pense que j'étais un peu dans la pensée magique. Puis même si on m'a prévenue, je n'ai pas vraiment entendu. Je ne dis pas que je ne le referai pas, mais disons que j'ai été un peu dans le déni pendant un certain temps par rapport à ce à quoi on faisait face chez nous.
Est-ce que je peux te demander pourquoi avoir décidé d'adopter, sachant justement que c'est un défi supplémentaire, là?
Bien, tu sais, moi, j'étais toute seule, j'avais pas de conjoint, j'étais rendue quand même, tu sais, plus que 35 ans, je voulais un enfant, ça, c'était clair pour moi, puis pour moi, l'idée d'une procréation médicalement assistée était encore plus rébarbative que ce que m'annonçait la banque mixte. C'est-à-dire que pour plein de raisons, je ne me voyais pas. Ben, déjà, je suis une femme obèse, puis on le sait, pour les femmes obèses, ce n'est pas facile, la procréation assistée, puis on se fait beaucoup rabrouer par le système, on nous demande de perdre du poids. J'avais pas envie d'aller vivre ça toute seule, de me piquer des hormones toute seule. Tout ça, ça ne me tentait pas. Fait que pour moi, je pense que je ne tenais pas tant à la grossesse dans mon processus. Ce qui m'importait, c'était d'accompagner un enfant. Puis pour ça, on peut dire que je suis choyée parce que j'accompagne un merveilleux enfant depuis vraiment plusieurs années déjà.
C'est beau.
Dès le début, qu'est-ce qui a été difficile? T'sais, on parle à la première rencontre, justement, aller chercher de l'information. Mais quel a été le premier bâton dans les roues qui a fait « Ouh, OK, officiellement, ça va être difficile » et qui n'aurait pas été nécessaire, selon toi, Catherine?
Il y a beaucoup d'opacité. Fait que, moi, je te dirais que le premier moment, je ne dirais pas qu'à ce moment-là, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, mais quand j'y repense, là... Il y a eu un moment, moi, j'ai été évaluée, disons, un an et demi après avoir fait ma rencontre d'information, avoir déposé mon dossier, ce qui est c'est pas mal le délai qu'on nous annonce là, à l'époque où moi, j'étais dans la région où j'étais. Puis, au moment de l'évaluation, il y avait déjà en tête un enfant qui voulait placer. Puis, on me disait, ça va aller vite, c'est urgent, ça va aller vite, c'est urgent. Mais ça a pris 3 mois, là. Puis ces 3 mois-là, là, c'est les 3 mois les plus longs de ma vie, là, parce qu'on me disait rien. Tu sais, on me rencontrait pour me dire « ça va être urgent, ça va aller vite », puis là, silence radio pendant 3 semaines. Sérieux, je capotais. Chaque fois que mon téléphone sonnait, le cœur me lâchait. Puis, tu sais, cette opacité-là, assez souvent, tout le long du processus, je l'ai ressentie à plusieurs reprises. On nous parle pas beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est urgent? C'est quoi les étapes qui restent? C'est urgent, genre, elle arrive demain ou urgent, tu sais?
Oui, parce qu'il faut être prête,
là. Il faut que tu prépares, mon
Dieu. Avec plein de matériel, mentalement
puis
aussi.
On travaille, l'air de rien. Ah, tu sais, il faut que tu partes en congé. Ça peut être bien de... Fait que... Il y avait beaucoup, c'est ça. Puis, tu sais, on m'avait parlé de cette petite fille qui avait 1 an à l'époque. Puis là, un moment donné, on me rappelle pour me dire, bon, finalement, ça ne sera pas la petite fille. Puis là, OK... Puis là, on me rappelle, ah, ben finalement, ça va être... Tu sais, déjà, là, il y avait beaucoup, là, de... C'était très lourd,
hey, mais même pour toi, ben oui, c'est ça, personnellement, ça doit être difficile. Tu te fais des idées, veux, veux pas, là, tu commences à te créer un futur quotidien dans ta tête. Est-ce que tu penses que ça peut décourager des familles de vouloir adopter?
Bien, je pense que oui. Moi, j'avais peur que mon livre décourage trop. Après, les gens me disent qu'il y a tellement d'amour dedans que c'est pas l'effet que ça fait, donc tant mieux, parce que mon objectif, c'est pas que plus personne le fasse. Mais tu sais, je me dis, si vous êtes découragé juste en entendant ce que je viens de raconter, c'est pas pour vous, là.
Okay? Non, mais c'est un bon message.
C'est lourd. C'est drôle, hein? J'ai dû le rencontrer dans le livre, mais à ma rencontre d'information, je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais qui, elle, avait immigré ici de la France. Puis elle n'est pas revenue à la deuxième rencontre d'information parce qu'elle m'a dit, moi, je ne repars pas dans un processus administratif de même. Je suis encore brûlée de mon processus d'immigration.
Ah.
Puis sur le coup, je me disais, ouais, ben, elle ne veut pas d'enfant tant que ça, finalement. T'sais. Mais maintenant,
il y a eu
je
un jugement là, de ta part à ce moment-là.
Ben oui, vraiment. T'sais. Puis maintenant, je le comprends parce que je fais le parallèle entre ce que j'entends des histoires d'immigration. Il y a quelqu'un qui vient de publier un livre sur le curateur public. Ce qu'elle raconte, là, ça ressemble tellement à ce que je raconte. Là. C'est d'être comme pris au piège dans un système qui rend un peu fou, où tu ne te sens pas considéré comme humain, puis où tu es pris dans 1000 processus qui sont complètement déconnectés de ce que toi, tu es en train de vivre, qui est quand même, tu sais, l'expérience émotive la plus fondamentale qui soit, là. Puis là, il faut que tu remplisses des petits rapports pour dire combien de nuits elle a dormi chez vous. Tu sais, je le dis dans le livre, mais elle a dormi toutes les maudites nuits chez nous à partir du 29 novembre 2017. Puis j'ai dû, pendant 6 ans, presque 7 ans, remplir chaque mois un formulaire pour dire qu'elle dormait chez moi toutes les nuits. Puis là, à un moment donné, tu as comme envie de dire, pouvez-vous l'inscrire dans le système, là, qu'elle dort chez nous? Puis il n'y a pas d'autre plan, on vous rappellera si ça change.
Si ça change, ben oui.
C'est comme absurde, puis à un moment donné, cette absurdité-là, elle s'accumule à un investissement émotif qui, lui, est très, très drainant aussi.
Est-ce que vous êtes formé? T'sais, c'est une drôle de question, mais il y a certains enfants qui ont vécu des choses épouvantables, on va se le dire. Là, t'as beau être un bon parent, il n'y a personne qui est prêt pour ces enjeux-là. Là.
Inimaginable, des fois.
Ah non. Puis vous dites inimaginable, puis je tiens à le dire, on pense tout de suite à des situations tragiques. On en entend, hein, il y en a dans... Mais... les situations que vivent ces enfants-là, là, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma fille, mais ma fille, elle n'a rien vécu qui ressemble à un film d'horreur, a priori. Là. Sauf qu'elle a été beaucoup déplacée. Puis ça, pour un jeune bébé, ça laisse des traces importantes, même s'il n'y a pas de violence directe ou d'abus direct ou tout ce que vous pouvez mettre dans votre film d'horreur. Et c'est ça que des fois, on néglige, en fait. C'est que, ben, justement, la petite négligence ordinaire, elle a des impacts qui sont là puis qui vont rester. Puis non, on n'est pas assez formé parce qu'à part les rencontres d'information dont je vous parle, on n'a pas vraiment... Puis là, en fonction des régions, c'est différent d'une région à l'autre, mais on ne reçoit pas toujours l'accompagnement dont on aurait besoin. Moi, ma fille est arrivée à 15 mois, puis c'est vers 2 ans et demi que j'ai levé la main pour dire, là, il y a des choses qui ne marchent pas, là. Tu sais, il y a des choses qui m'inquiètent. Puis le pire, là, c'est que sur papier, quand elle est arrivée chez moi, je le sais maintenant parce que maintenant, je suis mieux formée et mieux informée, on avait tous les indices pour savoir que exactement ce qui est arrivé arriverait. Tout était là, là. Fait qu'on... c'est eux, c'est la DPJ, c'est les mieux placés pour le savoir. Ils auraient dû le savoir.
T'aurais aimé qu'on t'indique
pas contourner ça.
Des possibilités par le fait qu'on est capable de capter certaines choses sans affirmer que ça va aller là ou qu'il va avoir peut-être un trouble d'attachement. Moi, je parle en dehors de connaissance de ton cas, Catherine, puis de la petite, mais... des troubles d'attachement qui vont être sévères dans le sens où est-ce que je peux faire confiance à l'adulte? Est-ce que ça va être pour toujours? Est-ce que c'est vraiment un milieu chez moi? Est-ce que ça va pouvoir m'angoisser et autres? Puis il y a deux personnes très, très proches de moi qui travaillent auprès de la DPJ de façon quotidienne. Et ces petites choses-là même, c'est pas de la violence physique qu'on entend des fois dans certains cas qui font la une et autres, font en sorte que ça teinte tellement le développement de l'enfant. Le 0 à 5 ans est hyper important. Oui. Ça va donner même sur les relations interpersonnelles plus tard, les relations amoureuses. Donc, si on t'entend bien, Catherine, toi, en n'étant pas aidée face à ça, il a fallu que tu fasses des démarches par toi-même. Puis encore là, c'est un apprentissage en même temps que tout se découvre chez ta fille.
Oui, puis tu n'as pas le droit de faire des démarches par toi-même. Tu n'as pas de droits parentaux. Fait que moi, je ne pouvais pas l'amener voir un spécialiste sans l'autorisation de la DPJ.
Pas inquiétant.
Fait que là, il a fait... Puis là, c'est parce que le débat, c'est jamais dit, mais il est aussi financier, tu sais. Mm-hmm. C'est que là, évidemment, la DPJ ne veut pas payer l'évaluation neuropsychologique qui va coûter 2 500 $. Puis là, comme tu n'as pas de droits parentaux parce que tu n'as toujours pas adopté puis que ton enfant est toujours sous les auspices de la DPJ, théoriquement, c'est à eux de payer, là, parce que toi, tu n'es pas un parent. On te le répète sans arrêt. Tu n'es pas son parent encore, là. Fait que là, t'es pris là-dedans. À un moment donné, j'ai eu effectivement l'autorisation, c'était bien formel, si c'était moi qui payais d'aller chercher des services au privé, parce qu'on ne peut pas aller dans les CLSC non plus, parce qu'on est considéré comme pris en charge par la DPJ. Donc, théoriquement, on les a, les services. Fait que finalement, je suis allée au privé, mais c'était en janvier 2020, puis là, la pandémie est arrivée, puis tout a explosé.
Et c'est un bordel.
Ça a été très dur. Puis, je le dis dans le livre, puis pour moi, c'est important de le nommer parce que, pour moi, le scandale, admettons, politique, il est là. C'est que nous, une des particularités, c'est qu'on a déménagé à un moment donné. On a déménagé de la région où on était vers Montréal. Et là, ma vie a changé. Et là, c'était plus pareil. Là. Puis, c'est pas parce que le monde sur qui je suis tombée à Montréal était tellement plus fin puis tellement compétent. Là. C'est parce qu'il y a clairement beaucoup plus de services dans les grands centres que dans beaucoup de régions. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que les enfants du Québec, ils n'ont pas tous les mêmes services en fonction d'où ils naissent. Puis ça, je trouve ça inadmissible, puis il faut le dire.
T'sais. Mais c'est parce que la DPJ serait censée être là pour faire en sorte que les services soient égaux, justement. Là.
Ben oui. Puis je me rappelle, parce que moi, j'étais suivie par les deux, parce que ma fille restait attachée à la région d'origine. Donc, j'étais suivie par les deux DPJ en même temps. Puis des fois, on avait des rencontres à trois. Puis les intervenants de notre région d'origine, ils étaient comme... Ouais, vous avez eu accès à une ergothérapeute, tu sais, jamais on aurait ça chez nous, là.
Ça fait pitié pour eux aussi, ces intervenants-là qui se battent à tous les jours puis qui réussissent même pas à avoir les services qu'ils aimeraient que les enfants aient, puis qui se rendent compte que ailleurs ça se fait, tu sais, au Québec.
C'est très fâchant. C'est très, très fâchant. Puis nous, c'est ça, notre vie, elle a changé à partir de ce moment-là. Là. Clairement, là, on a eu des services. Puis c'est qu'il faut aussi, puis ça, c'est important de le dire, il faut des services appropriés, il faut des services de gens qui connaissent l'adoption. C'est drôle, je viens de recevoir justement le rapport d'une nouvelle ergothérapeute, puis c'est intéressant parce que dès l'introduction, elle utilise le terme « normalité adoptive », qui est un thème qui a été mis de l'avant par Joanne Lemieux, qui est la grande spécialiste de l'adoption. Puis ça, là, c'est important, se retrouver devant n'importe quel psychoéducateur ou n'importe quel ergothérapeute qui ne connaît pas les réalités liées à l'adoption, au placement, tout ça, Ça fait qu'on passe à côté de choses qui sont centrales chez ces enfants-là et que peu de gens connaissent en dehors des spécialistes. Et ces services spécialisés-là, ils sont extrêmement rares. Puis c'est drôle parce que je lisais une étude récemment qui a été faite sur la recherche de services par les parents de la banque mixte, puis je pleurais parce que c'était comme mon histoire. Puis là, je me disais, OK, on vit tous la même chose, là. On va vers des services généralistes, puis là, les gens nous parlent, puis on se dit, ils comprennent pas. Ils comprennent pas de quoi je leur parle, là. Ils me
Tu te sens
disent, quand elle veut pas se
seule.
coucher le soir, il faut la ramener dans son lit fermement et sans violence, mais elle me suit pas. Tu sais, qu'est-ce que je fais si je la mène fermement et sans violence, puis qu'elle vient pas, tu sais? Parce il y a beaucoup d'enfants qui passent par la banque mixte qui ont des traumas de petite enfance. Il y a les enjeux d'attachement dont vous avez parlé. Il y a tout l'aspect affectif. Moi, une des particularités de notre dossier, c'est qu'on est encore en contact avec la famille biologique. Fait que ma fille, elle vit aussi dans un conflit de loyauté là,
Ouf,
qui
ouf,
est là,
ouf.
qui existe. Donc,
Puis c'est
il faut
correct
être
en même
outillé.
temps, si la famille
Oui.
biologique elle a encore le droit d'avoir un contact, c'est qu'il y a une raison derrière de ça, mais c'est tellement déchirant pour un enfant, c'est jeune en plus.
Bien, c'est jeune, puis on ne comprend pas tout. Puis nommer les choses, des fois, elle aurait envie de nommer des choses, mais elle a peur de me faire de la peine. Elle a peur de faire de la peine à son autre famille. Fait que moi, je l'accompagne là-dedans, mais évidemment, pour que je puisse l'accompagner là-dedans, il faut que moi, j'ai été formée, que j'ai lu les
Aider.
bons livres, qu'on m'ait envoyé vers les bonnes sources. Puis c'est ça, nous, ça a commencé, je dirais, là, quand elle a eu 5 ans, puis on est arrivé à Montréal, là, on a commencé à avoir des meilleurs suivis, puis des meilleures orientations. Puis notre vie a changé, mais il a aussi fallu que j'accepte de plus travailler à temps plein.
Oh boy. En passant, on parle avec Catherine Voyer-Léger, qui est l'auteur du livre Adoption, les 12 travaux de la banque mixte, qui est pas mal, j'ai quasiment envie de dire, la ressource pour savoir ce qui s'en vient si vous entrez dans ce processus-là. Tu parlais, puis il y a deux choses qui me sont venues en tête. La première, c'est quasiment, c'est plate comme question, mais est-ce que tu es obligée de laisser une place à la famille d'origine dans la vie de ton enfant quand tu l'as finalement adopté?
Non. Pas du tout, c'est même très rare que ça arrive. De façon générale, en banque mixte, quand l'adoption a lieu, les liens sont coupés. Par contre, dans notre cas, c'est que ça a été tellement long. Quand l'adoption a été déclarée, ma fille avait 7 ans et demi.
Oh boy, OK,
Tu
ça a pris tout ce
sais,
temps-là.
ouais, ça a pris, ben c'est ça, c'était en janvier dernier, là, officiellement, l'adoption. Donc, pourquoi? C'est-à-dire que personne ne représente un danger dans sa famille. Elle connaît. Sa mère, sa grand-mère, sa fratrie. Pourquoi là, je déciderais unilatéralement que je coupe tous les. Pourquoi j'y ferais vivre un autre abandon? Je ne le voyais pas comment c'était possible, en fait, qu'on coupe les liens
Je
rendus
comprends.
à cet âge-là. Même si, tu sais, il y a des spécialistes qui me disent, mais ça y fait pas du bien, ben je comprends, mais ça y ferait pas du bien que j'y dise, tu n'as plus le droit de les voir non plus. Tu sais,
C'est
c'est-à-dire que
touché,
là,
là.
je fais face à la situation
Oui.
telle qu'elle est. C'est sûr que quand ça provoque des choses, tu sais, je dirais que souvent, à l'âge que ma fille, comme 8 ans à peu près, chez les enfants adoptés, le conflit de loyauté, surtout s'ils n'ont pas de contact, il est un peu en dormance, puis il va renaître plus tard, tu sais, quand ils prennent plus conscience, là, ils veulent retrouver leurs parents. Nous, il est très actif, tu sais, il est là, chaque fois, on les voit 3 fois par année, donc chaque fois, on traverse un peu ce couloir-là ensemble, puis on fait un chemin. Mais moi, je trouve pas ça négatif au final. Tu sais, le côté positif, c'est qu'elle sait, tu sais, elle peut pas idéaliser qu'est-ce que ça serait, admettons, c'est qui ces gens-là qu'elle connaît pas. Elle les connaît, fait qu'elle a une image très claire.
Et pour elle, t'es sa maman?
Oui, ça, il n'y a pas de. Ben, elle sait qu'elle appelle son autre maman mamie, puis elle sait qu'elle a une autre maman, mais c'est moi sa maman, c'est sûr. Pour elle, il n'y a pas de doute, là, c'est moi la personne vers qui elle se retourne.
J'ai une autre drôle de question pour toi, Catherine. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser au choix de l'enfant. Ça a l'air bizarre, mais est-ce que la DPJ, quand tu veux adopter, t'impose un enfant ou tu as un certain choix sur est-ce que tu vas recevoir un petit gars, une petite fille, l'âge, par exemple?
Ben, tu as beaucoup, c'est-à-dire c'est même difficile, là, ce bout-là, là, dans les formulaires, tu as plein de critères à remplir, autant qui concernent l'enfant. Qui concerne l'histoire des parents, tu peux exclure, admettons, tu sais, certaines problématiques avec lesquelles tu serais mal à l'aise. Longtemps, il y a même eu des critères liés à l'ethnicité. Là, ça n'existe plus vraiment parce que ça a été contesté. Mais reste que, je pense que malgré tout, la DPJ reste très attentive à ça. Tu sais, il n'y a aucun intérêt à envoyer un enfant noir, admettons, dans une famille où on serait raciste. Là, tu sais,
Oui.
ça ça aiderait personne.
Mais là, ces parents-là pourraient adopter? Quand c'est concret, mettons le racisme, ça, mais en tout cas, ce sera pour une autre.
C'est sûr que c'est rare que tu n'écris pas ça dans ton formulaire. Moi, je suis raciste.
Non, c'est ça, les gens ne l'assument pas.
Je ne suis pas raciste, mais.
C'est ça. Mais donc, tu sais, il y a plusieurs critères. Puis après, tu as toujours le droit de préciser des critères de santé. Le problème, c'est que plus tu veux un enfant jeune, moins les critères de santé sont possibles à vérifier. Mm. C'est-à-dire que comme le spectre du trouble de l'autisme, par exemple, tu sais, on ne sait pas ça à 15 mois, là, tu sais, tout ça. Fait que, après, il y a des discussions, tout ça, puis tu peux préciser ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est sûr que plus tes critères sont précis, plus ça risque d'être long, tu sais. Moi, c'était surtout, tu sais, pour moi, l'important, c'était surtout des critères d'âge. Moi, j'avais dit en bas de 2 ans, c'est ça. Il y a des gens qui tiennent absolument à avoir un tout petit bébé parce qu'ils s'imaginent qu'au plan de l'attachement, ça va être plus simple. C'est pas toujours vrai, tu sais, mais c'est vrai qu'il y a moins de chances qu'il y ait eu beaucoup de déplacements, etc. On voit de plus en plus en banque mixte des enfants beaucoup plus vieux. Avant, ça n'existait pas. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que c'est aussi parce qu'il n'y a juste plus de famille d'accueil. Fait que là, on les envoie en banque mixte. Mais moi, chapeau, là. Moi, j'ai suivi une femme là, qui a... Moi, ma fille, elle peut être assez violente avec moi. Elle s'est beaucoup calmée, mais elle m'a beaucoup frappée là, dans la vie. Mais j'ai connu une femme qui a vécu ça après 2 semaines de placement là, avec une enfant de 6 ans là, se faire taper dessus. Moi, j'aurais pas pu faire face à ça avant que mon attachement à moi soit profond et décidé. Là. Je pense pas que j'aurais été capable d'accueillir chez moi comme ça un enfant qui me rejette ainsi, puis continuer le chemin. Là. Je leur dis vraiment, ça prend beaucoup de courage, là, s'embarquer là-dedans.
Je trouve ça super intéressant, le livre que tu as publié, Catherine, puis peut-être même essentiel, parce que, bon, pour avoir connu, c'est ça, 2 couples d'amis qui l'ont fait, c'est super difficile, mais en même temps, tellement rempli d'amour. C'est quelque chose qui a assouvi un genre de besoin de parentalité. Au final, c'est une des plus belles choses qui leur est arrivée dans leur vie, malgré tous les défis puis les défis additionnels de cette situation-là. C'est un livre qui est important, ce que tu as publié, mais dans le cri de bonheur, dans le positif de tout ça, qu'est-ce qui est important aussi à dire pour toi?
Bien, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre pour les parents qui s'embarquent là-dedans que ça va, évidemment, un enfant, ça change toujours ta vie, mais que là, il y a une couche de plus, tu sais. Moi, ma relation pendant toutes ces années-là avec l'appareil de la DPJ, c'est une relation qui m'a minée, tu sais. Ça a été très exigeant pour moi. Je suis plus la même personne, j'ai plus la même énergie, j'ai plus la même confiance en moi. Cet aspect-là administratif, c'est important de le mesurer. Bon, moi, j'ai fait ça toute seule aussi. Je pense qu'à deux, on peut plus se soutenir, mais je connais aussi du monde qui ont fini par se séparer. Parce que c'est lourd, ouais, là. Tu sais, tout ça, c'est lourd. Puis, être prêt à dire, tu sais, réfléchir en amont, là, si notre enfant, il y a des enjeux d'attachement importants, là. Moi, quand l'école m'a appelée en maternelle pour me dire, on pense qu'on ne pourra pas la prendre à temps plein, là, la face m'a tombée quand même, là, parce qu'on vit sur un salaire, là, tu sais. Je fais quoi le reste de la journée avec mon enfant s'ils ne peuvent pas la prendre à temps plein, là, tu sais. Les 4 jours, là, c'est l'enfer, là, tu sais. Chaque été, là, il arrive un moment où je me dis, OK, là, c'est le burn-out assuré, là, parce que là, ils ne peuvent pas la garder aux 4 jours. Tu sais, c'est compliqué. Fait qu'il faut... Moi, ce que je n'ai pas fait, puis que je dirais aux gens de faire, c'est faites-le en amont. Si on est deux puis qu'on ne peut plus toutes les deux travailler à temps plein à un moment donné parce que notre enfant il a besoin d'accompagnement puis de soins, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? Posez-vous la question. Moi, quand j'ai fait l'évaluation, c'était très large. Là. Avez-vous un bon réseau? Oui, j'ai un bon réseau. J'ai un super réseau de soutien affectif. J'ai un super réseau de gardiennes. Mais honnêtement, j'ai personne pour venir prendre le relais quand tout explose dans ma maison à 8h30 le soir. Puis ça, on ne m'a pas posé la question concrètement. T'sais. C'est ça.
Puis Catherine, mettons qu'on regarde ce que ça t'a apporté comme personne au niveau positif.
C'est sûr que je suis une meilleure personne. Même tout ça. Mais tu sais, tout ça m'a obligée à revenir à l'essentiel. Puis je trouve qu'un, elle m'a appris beaucoup sur moi parce qu'en faisant des recherches sur sa santé à elle, j'ai découvert c'est quoi les hypersensibilités. J'ai compris beaucoup de choses sur ma propre enfance à une époque où on ne parlait pas de ce genre d'affaires-là. Elle m'oblige à m'arrêter, elle m'oblige à me demander pourquoi on est pressé de même le matin. Pourquoi maudit d'envie? On presse nos enfants de même le matin. Elle ne peut pas le prendre. C'est pas possible pour elle d'accepter ça. T'sais. Puis, c'est ça. T'sais, j'entends souvent des parents me dire: ah, ça chez nous, ça passe pas, c'est non négociable. Puis, ça me fait sourire parce que je me dis: ben moi, c'est un peu ça. C'est elle qui me dit ça des fois. Ça, c'est non négociable. T'sais. Ça, pour elle, ça se peut pas. Qu'on y mette de la pression de même sur certaines affaires que je suis même pas capable d'y expliquer pourquoi on met de la
Oui, c'est ça.
C'est juste de même.
Pourquoi là, ça va vite de même, maman? Ben, je sais pas.
Pas une question.
Je sais même pas pourquoi c'est si obligatoire qu'on arrive à l'heure. Je le sais pas. Fait que c'est ça, tu sais, ça, constamment, c'est quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui me ressemble à plusieurs égards, mais qui est aussi très différent de moi. C'est une vraie créative, elle est libre dans sa tête. Puis ça, moi, je suis quelqu'un qui a toujours obéi aux règles, qui a toujours eu peur de déranger. Puis elle m'oblige justement à dire: ben des fois on dérange.
Oui.
Des fois on est qui on est puis on dérange.
Puis c'est
ben,
correct.
Avec.
On va toujours déranger quelqu'un.
On a le droit d'être là.
Oui, oui. C'est ça.
On a le droit d'aller au théâtre, même si nous, on n'est pas capable de rester assis 45 minutes. On a quand même le droit d'être là. Puis c'est ça. Fait que ça, elle m'apprend ça. T'sais. Elle m'apprend à me tenir plus droite. Pour elle, j'apprends à tenir droite puis à défendre qui on est.
Je trouve ça excessivement beau, Catherine, je tiens à te le dire. On parle avec Catherine Voyer-Léger, qui est entrée dans le processus d'adoption par le programme de la Banque Mix. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, Catherine, là, mettons qu'on se fait un genre de top 3 là, de ce qui pourrait changer dans le processus pour l'améliorer.
Il faut que les intervenants de la DPJ soient mieux formés aux réalités de l'adoption. Là, je parle de l'attachement, ce genre de choses-là. Il faut que les processus soient uniformisés d'une région à l'autre pour qu'il y ait des services équivalents partout et de grande qualité. Puis il faut ce qu'on appelle des services post-adoption qui sont quasi inexistants au Québec. C'est-à-dire que pour l'instant, le programme est bâti sur l'idée qu'une fois l'adoption déclarée, ton enfant n'a plus aucune séquelle. Okay. T'es devenue une famille comme les autres.
Ouais, c'est
OK,
ça.
Ciao, bye.
Au revoir.
Bonne chance.
Tu sais, je peux pas croire que c'est parce qu'il y a un manque de connaissances à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'ils sont pas capables d'assurer ce service-là. Fait qu'ils font du déni volontaire.
Mais ils sont pas capables. C'est clair. Moi, je dis souvent, la Banque Mixte n'a pas les moyens de ses ambitions. Ouais, c'est un beau programme sur papier. Mais pour l'instant, on a trop le sentiment que les enfants en Banque Mixte ont moins besoin de soutien que les enfants qui sont dans la DPJ régulière, admettons, qui eux vont réintégrer leur famille et tout ça. Puis c'est pas vrai.
Puis en même temps, il faut que tu aies place. En même temps, il faut que ces enfants-là aient une famille. Donc là, je me demande s'il n'y a pas eu un laisser-aller ou une habitude en se disant, de toute manière, il fallait les placer, on le fait. On le fait de cette manière-là depuis des années. Puis ça roule comme ça, puis on a de l'énergie à mettre ailleurs. Puis sinon, ben, on n'a plus de banque d'énergie. Donc ça va continuer comme ça.
Puis tu sais, c'est pour ça que moi, je le dis toujours, je blâme pas personne en particulier. Je pense que tout le monde que j'ai rencontré dans ce système-là, fait le mieux qu'il peut avec les ressources qu'il a, mais il y a vraiment un manque de ressources, on le sait. Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais la solution, c'est entre autres d'en parler. Parce que trop souvent, quand on parle de la DPJ, on ne parle jamais des adoptions puis de la banque mixte, justement parce qu'on a l'impression que ça, c'est des cas réglés, entre guillemets.
Mais totalement, on a l'impression que c'est le positif au bout de la ligne, en fait.
Bien, c'est positif, mais si on veut que ce soit pour vrai... Je me rappelle d'avoir pensé une fois, l'intervenante était chez nous et elle a dû quitter en urgence parce qu'elle avait une ado qui fuguait. Puis là, je voyais bien qu'elle se disait: hey, ton enfant de 2 ans et demi qui fait le bacon, là, c'est la dernière de mes priorités. Puis moi, tu sais, elle est partie de la maison, puis je me suis dit: ouais, mais tu sais, c'est parce que mon enfant de 2 ans et demi qui fait le bacon, ça va être l'ado qui fugue dans 10 ans. Ouais. Si on ne fait pas quelque chose avec son bacon, qui n'est pas un bacon ordinaire, là, qui est comme
un bacon.
En même
temps, elle
avait
son urgence.
On peut-tu prévenir? Oui.
C'est ça. Fait que je ne sais pas les solutions. Je ne suis pas dans le système puis je ne veux vraiment pas jouer les belles-mères. C'est pas ça. Mais je pense qu'il faut considérer qu'en adoption, on a des besoins spécifiques.
Bien, le message est très, très clair, Catherine, je pense. J'ai vraiment apprécié ce moment-là ce matin. Je tiens à te le dire. Ton livre, on peut se le procurer où? Parce que je pense que c'est un ouvrage assez juste sur le processus.
Il est partout, dans toutes les bonnes librairies. Et c'est un beau cadeau à faire aux gens qui sont en amont de ce processus-là, je pense.
J'ai peut-être une petite question, Bonnie, là-dessus.
Bien, vas-y donc.
En terminant, Catherine, là, y a-t-il des gens qui t'ont dit « Non, nous, on publie pas ça » parce que justement, ça allait checker un peu la cabane?
Non, mais en fait, c'était une commande. C'est l'éditeur qui l'a commandé, fait que j'ai pas eu ce problème-là. Mais non, je pense que non, au contraire, les éditeurs aiment bien quand on shake la cabane. Donc, il aurait été plutôt. Je pense qu'il y a plus du monde jaloux que je ne sois pas allée publier ça chez eux.
Mais c'est nécessaire, je trouve, parce que tu sais, les internets, c'est magique, là, tu peux faire mille et une recherches, mais je trouve que de retrouver la vérité dans un livre venant d'une personne qui a passé dans le processus, c'est une maudine de belle affaire. Fait qu'effectivement, beau cadeau de Noël. Catherine Voyer-Léger, je te remercie, je te souhaite un magnifique temps des fêtes avec ta puce.
Merci, joyeux Noël à vous.
Bonne
Salut.
journée. Hey,
Bye.
je trouve ça franchement intéressant. Je ne m'attendais pas à ça ce matin.
Mais je trouve que c'est encore mieux que ce à quoi on s'attendait parce qu'on se lançait dans quelque chose qui nous a pas, comment dire, touché considérablement. C'est pas
Oui.
dans notre vie, c'est pas un enjeu qu'on a. Fait qu'on était toutes ouvertes, toutes oui à ça. Ça résonne encore plus sur tous les problèmes du côté du DPJ. Et la dernière chose, moi, que je vois là-dedans, c'est à quel point, je le dis tout le temps en nombre, je trouve que c'est la meilleure manière de le reploguer en ce moment, les enfants que l'on a en ce moment seront les adultes de demain qui vont créer notre société.
Ah,
fait que
tellement!
tous les problèmes qu'on pèle en avant, on les
Mais ça,
pèle
c'est
en
dans
quadruple.
toutes.
Côté d'enfance, là, c'est significatif. C'est assurer que ces enfants-là, si ce n'est pas bien régulé du 0 à 5 et en montant, ça va devenir des problèmes qui vont nous coûter encore plus cher, ça va être encore plus difficile côté
Oui. Ce que je veux dire,
employabilité.
Pascal, quand je te dis que c'est par rapport à tout, c'est qu'on n'a jamais travaillé, du moins dans notre société actuelle, en prévention. Tu sais, avec les enfants de demain, mais dans l'éducation aussi, dans la santé, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on rush comme ça avec les hôpitaux. On a reçu souvent, là, Gabriel Hardy du Tonic, là, qui travaille fort avec le gouvernement pour essayer d'amener ce message-là de si on prévient puis on nous donne des outils. Ben ceux de demain iront mieux. Fait que je suis 100% d'accord
C'est
avec
juste
toi
que
sur
ça a
ce
un impact
principe-là.
sur le ministère de la Santé par la suite, sur le
Absolument.
ministère de l'Éducation,
Surtout.
sur absolument les réseaux, tous les réseaux, je veux dire sociaux du genre Instagram et autres, mais les filets de
Ouais.
sécurité, la contribution aussi des finances. Puis ça part de cette enfance-là. Les impacts, après, on le voit, sauf que quand tu regardes le noyau est doux, il est pas mal de là.
Il y a des textos qui sont entrés super intéressants, super touchants. Il y a quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai été adoptée en 1979. Avant même ma naissance, tout était déjà planifié. À cette époque-là, j'ai le sentiment que c'était beaucoup plus facile. Et j'ai jamais connu mes parents biologiques. J'ai pas l'intention de faire des recherches non plus. Je suis tellement mitigée parce que, tu sais, on écoutait Catherine, puis une partie de moi qui me dit, mon Dieu, on peut-tu rendre la vie plus facile à ces gens-là? D'un autre côté, Pascal, tu l'as bien nommé, il y a l'aspect manque de ressources. C'est pas, on peut pas taper sur la tête des intervenants qui eux-mêmes cherchent des solutions et sont découragés du système dans lequel ils sont. Puis d'un autre côté, je me dis, faut pas trop lousser non plus parce qu'il faut pas laisser n'importe qui devenir famille d'accueil. Fait que
Est-ce qu'on en
c'est
a vu
toute
là, dans
une affaire.
l'actualité des drames de familles
Oh,
d'accueil qui en ont profité là?
c'est épouvantable.
Un autre texto, l'adoption est tellement compliquée et exigeante sur des points complètement hors propos. Une de mes amies s'est vue refuser l'adoption parce que son sous-sol était non terminé. Et en contrepartie, la banque de sperme est pratiquement porte ouverte. Pour l'adoption, il faudrait prouver que l'on est un couple stable et durable pour la banque de sperme, rien du tout. C'est décourageant pour les couples infertiles et ou homosexuels. C'est un texto qui, je pense, pourrait être copié-collé par bien des gens, juste famille d'accueil. Vous irez voir toutes les demandes que l'on fait à une famille d'accueil. Puis des fois, c'est vraiment une histoire de peinture, ces murs, là. C'est complètement stupide, puis ça amène à avoir une pénurie de familles d'accueil aussi.
Bien, totalement. Mais c'est parce que t'as pas envie de te lancer dans ce processus-là. C'est drôle, j'avais déjà eu la discussion avec mon chum là-dessus. Puis quand je regarde à quel point c'est compliqué, nous, on a la chance, en tout cas, je pense, de pouvoir avoir un enfant par nous-mêmes. Fait que tu te poses la question, bien, tu sais, rendu là, est-ce qu'on se lance dans. Puis Catherine le dit, ça te change comme personne aussi, ça t'épuise. Est-ce que tu veux vraiment te lancer là-dedans? J'ai une admiration sans fin pour ces gens-là, sincèrement. On revient dans quelques instants. Vous êtes dans l'open mic, vous avez des témoignages, des questions. Ça passe par le 88 9 7 1 102 1. On revient dans quelques minutes.
Cet hiver, offrez à...